commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette discussion hebdomadaire qui va être consacrée aujourd'hui à l'Europe, mais l'Europe vue par Emmanuel Macron. L'Europe telle que Emmanuel Macron la voudrait ou telle qu'il l'anticipe pour les années prochaines. Et nous avons avec nous pour discuter de tout cela Michel Duclos. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Marie.
Michel Duclos, ancien ambassadeur et surtout aujourd'hui conseiller de l'Institut Montaigne, conseiller sur les questions géopolitiques et stratégiques. Emmanuel Macron a donc fait un grand discours à la Sorbonne qui a été placé sous le signe d'une phrase: l'Europe est mortelle, donc l'Europe peut mourir. Et ensuite, propos qu'il a longuement développé et élargi d'ailleurs dans une très longue interview au magazine, à l'hebdomadaire britannique The Economist. Et donc nous allons un petit peu mêler les deux textes parce que le plus récent est évidemment très dense, celui sur The Economist, dans lequel il reprend d'ailleurs l'idée d'une Europe qui peut mourir parce qu'elle est menacée de trois façons. Elle est menacée par un risque militaire aujourd'hui de sécurité. C'est évidemment l'attitude de la Russie qui est en question. Elle est aussi menacée parce qu'elle est face à un défi économique et technologique. Ça, c'est le poids grandissant, le poids écrasant d'une certaine façon des États-Unis dans ce domaine, mais aussi celui grandissant de la Chine. Et troisièmement, dit le président de la République, elle est touchée par la crise des démocraties. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'Europe. On le voit évidemment aussi aux États-Unis. Donc ces trois risques font que l'Europe, en effet, peut-être est mortelle et peut mourir. Et puis au-delà, il reprend ses discussions sur la dissuasion nucléaire française, doctrine qui fait évoluer. On va voir dans quelle mesure. Et il lance aussi un appel, me semble-t-il, intéressant et assez vibrant à la Grande-Bretagne pour la définition de la sécurité de l'Europe dans l'avenir. Jean-Claude Casanova, je crois que vous avez été d'une certaine façon impressionné par ce texte à The Economist.
Oui, j'étais impressionné par ce texte qui reprend les éléments principaux du discours de la Sorbonne, mais avec nervosité et avec précision. Et je dirais que le mot central, c'est le mot « réveil ». Il dit réveil stratégique, mais c'est un réveil au sens général. Réveil en matière stratégique, réveil en matière économique, réveil en matière européen. Et le réveil, ça s'oppose au sommeil. Le sommeil, c'était d'abord le sommeil commercial, c'est-à-dire l'idée que le monde était pacifié, tout simplement parce que les échanges internationaux se développaient. Le sommeil commercial vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, etc. L'idée d'un monde pacifié. Or, le monde n'est pas pacifié. La guerre est revenue et il y a une analyse très brève mais très puissante de la menace russe et de ses conséquences pour l'Europe qui est désormais menacée, qui court un grand risque. Ensuite, il y a une analyse très profonde du risque économique et technique de l'Europe qui prend du retard par rapport aux États-Unis et qui n'a pas la puissance économique qui lui permettrait à la fois de se défendre et de progresser. Et puis, il y a des propositions de solutions. Et il y a une analyse très nuancée à l'égard de la Chine. La Chine n'est pas menaçante au sens où est la Russie vis-à-vis de l'Europe, mais il faudrait conduire la Chine vers l'ordre international parce que, au fond, du côté chinois, on sent qu'il y a à la fois la précaution et une volonté d'intervention. Et donc, je trouve que les analyses de Macron sont très rafraîchissantes, très précises et que j'espère qu'elles sortiront l'opinion française de son sommeil.
Alors Michel Duclos, vous aviez vous-même réagi de façon assez critique d'ailleurs au discours de la Sorbonne et donc vous êtes plongé aussi dans les 40 pages je crois que fait l'interview au The Economist. Comment vous regardez-vous cela? D'abord un regard un petit peu général avant de rentrer un peu plus dans le détail, Michel Duclos.
Je peux pas dire que je trouve que vous exagérez un peu en disant que j'avais réagi de façon critique. J'avais replacé en perspective des propos sur la Russie qui sont certes aujourd'hui justes, mais après de longues années d'erreurs
et d'hésitations.
Et mon point, c'est que si Macron avait tenu il y a 2 ans, au moment de l'agression contre l'Ukraine, le discours qu'il tient aujourd'hui, on aurait exercé un rôle de leader en Europe beaucoup plus puissant que c'est le cas aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas tellement de figures en Europe qui sont capables d'indiquer une direction. Et il est très clair que Macron, dans ces deux textes que nous commentons aujourd'hui, a le mérite d'indiquer une direction très, très claire, très argumentée. Et en ce sens, sa contribution au débat est tout à fait remarquable. Et si je peux ajouter aussi un autre élément à ce qu'a dit Jean-Claude, et je crois que Jean-Claude a dit ce qu'il fallait dire, bien sûr, pour décrire l'ensemble des propos du président, un autre élément, c'est que dans les propositions qu'il avance, il est en quelque sorte, si je puis me permettre cette réserve, moins catégorique que dans d'autres circonstances. Il indique plusieurs directions à chaque fois. Et ça, c'est pas mal pour faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire lancer un débat en Europe. Par exemple, sur le réarmement de l'Europe, il indique plusieurs pistes possibles. Et je pense que c'est la bonne méthode pour ouvrir un débat entre Européens.
Alors médiatiquement parlant, tout le monde se focalise sur le renouvellement de sa petite phrase sur d'éventuelles troupes au sol en Ukraine, troupes européennes au sol en Ukraine, en ajoutant cette fois deux conditions non pas à déclencher des troupes au sol européennes en Ukraine, mais à envisager deux, ce qui est évidemment différent. Ces deux conditions seraient une percée russe sur le front ukrainien, d'une part, et d'autre part, une demande en bonne et due forme de l'Ukraine, un appel au secours en bonne et due forme de l'Ukraine, qui n'existe pas, évidemment, pour le moment, et qui l'Ukraine se limitant à demander des armes et non pas des hommes. Donc, comment avez-vous regardé cette réédition, au fond, d'un propos qui avait déjà fait polémique en France, notamment par les oppositions, Michel Duclos?
Je crois que le président a compris que ses propos avaient choqué et il imagine que en les précisant, il sera davantage convaincant. Et là, je ne suis pas moi-même en mesure de dire s'il a raison ou tort, mais je pense que de ce point de vue-là, on peut comprendre sa démarche d'expliciter pour désamorcer ce qu'il y avait de peut-être choquant et de même répulsif. Je ne peux pas passer votre micro, je l'avais dit, mais c'est quelques jours plus tard, j'étais à la campagne, je parlais avec un restaurateur du coin et il disait, moi je suis prêt à soutenir l'Ukraine, mais je ne suis pas prêt à ce que mon fils qui a 16 ans aille se faire tuer sur le front ukrainien. Et là, ce que dit Macron, c'est que c'est pas de ça qu'il s'agit. Ou plus exactement, si on envoie des troupes, c'est dans des circonstances où on ne pourra plus faire autrement si le front ukrainien est enfoncé. Donc ça précise ses propos dans un sens utile. Et en même temps, vis-à-vis, puisque c'était quand même son intention initiale, c'était d'adresser un signal à Moscou. Et de ce point de vue-là, il reste fidèle à son inspiration, c'est-à-dire... Il dit aux Russes, ne croyez pas que vous allez y arriver, parce que même si vous étiez amené à faire une percée que nous espérons quand même stopper avant cela, même dans cette hypothèse, nous continuerons à ne pas nous laisser faire. Et donc, il poursuit son idée, tout en clarifiant ses propos vis-à-vis du public européen, il poursuit son idée dissuasive à l'égard de Moscou.
Jean-Claude.
Oui, je crois que l'essentiel de son propos, c'est de faire comprendre aux Russes qu'ils courent eux aussi des risques, parce que quand les Russes disent « menace, invoquent leur armement nucléaire », quand les Russes invoquent leur détermination, ils essayent d'exercer une pression sur l'Europe et sur les États-Unis, sur l'ensemble du monde occidental, pour leur dire « ne soutenez pas l'Ukraine ». Et la réponse de Macron est de dire « nous continuerons à souhaiter l'Ukraine et nous la soutenir l'Ukraine et nous la soutiendrons aussi longtemps qu'il faudra et avec les moyens qu'il faudra ». Et donc je trouve qu'il a une attitude de prise de position ferme qui me paraît tout à fait rationnelle et délibéré. Ça ne veut pas dire la mobilisation, ça ne veut pas dire que nous allons faire la guerre, etc. Ça veut dire que nous sommes déterminés à soutenir l'Ukraine et que nous ne sommes pas impressionnés par les menaces de Poutine.
Alors il y a aussi dans son texte, dans son interview à The Economist, il y a aussi l'ébauche de ce que pourrait être une sécurité européenne avec, on voit bien en toile de fond, l'hypothèse Trump aux États-Unis et l'hypothèse d'un retrait américain plus significatif auquel on ne s'attendait pas, ou maintenant auquel on doit s'attendre si évidemment Donald Trump était réélu. Encore qu'avec Trump, on ne sait jamais de quel côté penchera la balance. Donc dans ce cadre-là, il évoque à la fois le fait que, au fond, l'arme nucléaire française pourrait être intégrée dans un dispositif de défense européen, donc pourrait évidemment être utile aux autres pays européens, d'une part, ce qui, là aussi, fait aussitôt polémique en France. Et il invoque aussi le rôle de la Grande-Bretagne et il lance un appel assez vibrant, me semble-t-il, un rapprochement stratégique entre la France et la Grande-Bretagne, même si le journaliste de The Economist lui dit « Mais enfin, ce gouvernement, le gouvernement britannique en place conservateur, va être remplacé très vite. Donc est-ce que vous considérez que c'est encore un bon interlocuteur ?» Et lui parle évidemment à la Grande-Bretagne et au futur. Donc, Michel Duclos.
Je crois que les contacts ont évidemment commencé déjà avec les futurs gouvernants au Royaume-Uni. D'ailleurs, les élections dont on a eu les résultats ce matin confirment que la tendance est en faveur des travaillistes. Et l'un des avantages de Carmer, je crois, Carmer, c'est que c'est un leader qui, sur ces sujets-là, est prêt à examiner les options en présence. Ce n'est pas quelqu'un qui a une opinion toute forgée, qui va s'engager dans une direction ou dans une autre sans y avoir réfléchi. Et donc, Macron a raison de dire qu'on peut travailler avec le Royaume-Uni. Je trouve aussi qu'il a un ton, une nouvelle fois, plus juste qu'auparavant sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il ne met pas le couteau sous la gorge de nos partenaires européens en disant « faites ce que je dis parce que les Américains vont nous lâcher demain ». Il sait que, de toute façon, nos partenaires européens commencent à avoir en tête qu'il y a un risque américain. Je crois que l'idée progresse aussi en Europe, que même si Biden est réélu, on a vu les difficultés qu'il a eues pour faire voter
l'aide à l'Ukraine.
Et donc, on voit bien que maintenant, la classe politique américaine a la tête ailleurs. C'est-à-dire, elle considère que c'est son devoir, bien sûr, de ne pas perdre en Ukraine. C'est déjà très positif. Enfin, elle considère aussi que la priorité des priorités, c'est quand même le défi chinois. Et Macron, je crois, a bien capté ces nuances-là et a mieux compris que pour convaincre nos partenaires européens, il ne faut pas leur tenir un discours du tout ou rien ou du maintenant ou jamais. Et donc là, il avance, je crois, plus finement différentes orientations dans le même sens quand même, qui est que l'Europe doit se prendre en main. Je crois qu'aussi lui-même a dû mieux comprendre que la menace russe est durable. Que même si les Russes devaient reculer en Ukraine, ça ne veut pas dire pour autant que la partie serait terminée avec la Russie. Donc il y a là aussi de sa part, je crois, une maturation qui est assez impressionnante.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous parlons de l'Europe vue par Emmanuel Macron à travers un nouveau texte du président de la République confié au journal The Economist, qui est une longue interview qui fait 40 pages, donc qui est vraiment la façon dont Emmanuel Macron aime s'exprimer, c'est-à-dire d'une certaine façon un peu interminable. Revenons sur l'évocation de la place de la force nucléaire française dans le dispositif futur éventuel que peuvent ébaucher ou doivent ébaucher les Européens dans la perspective d'une prise en main par l'Europe de sa propre défense. Michel Duclos.
Le problème français, c'est que nous ne faisons pas partie, on fait partie de l'OTAN, on a rejoint les systèmes intégrés, etc. Mais malgré tout, c'est pas là qu'est l'essentiel de notre engagement militaire. L'essentiel de notre engagement militaire, il est dans la dissuasion et il est dans nos forces extérieures. C'est de vouloir être dans l'Indo-Pacifique et jusqu'ici, bien qu'on soit amené à se replier petit à petit en Afrique. Et donc, on a un problème vis-à-vis de nos voisins quand on veut leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent plus, qu'on est à leur côté, etc. Ils disent, vous êtes à nos côtés, mais sans y être vraiment. Et là, le président a commencé, je crois, à s'apercevoir que si on veut vraiment être crédible dans la défense européenne, il faut qu'on s'en occupe davantage, qu'on se mette davantage à l'écoute de leurs préoccupations. Alors déjà, il y a des idées de forces françaises qui ont été renforcées en Europe. On est prêt à prendre des commandements plus précis. Mais les autres continuent à regarder ça comme un effort qui reste de l'ordre du symbolique. Et là, pour la première fois, il avance des pistes avec effectivement un partage du nucléaire, mais aussi avec un effort sur le balistique et avec un effort dans d'autres domaines où il se met un peu à la portée de nos partenaires. Par exemple, sur le bouclier antimissile, il avait été furieux que les Allemands développent un plan sans nous.
Avec les Israéliens plutôt qu'avec les Français.
Avec les Américains. Et donc, notre première réaction, ça avait été de réunir d'autres partenaires européens pour essayer de faire la même chose de notre côté. Alors que là, au contraire, il n'exclut plus de rejoindre l'initiative allemande. Et là, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder si on veut vraiment avoir une contribution plus élevée à la défense en Europe et donc être davantage pris au sérieux par nos partenaires européens.
Jean-Claude Casanova.
Il pose, que le président, que Macron pose très clairement le problème. D'abord, la dissuasion, ça veut dire qu'il faut persuader les autres qu'ils perdront plus qu'ils ne gagneront s'ils nous attaquaient. Autrement dit, il faut les empêcher en les dissuadant. Alors, il y a deux possibilités. Est-ce qu'on le fait avec les États-Unis ? Et il y a une hypothèse qu'il faut désormais avoir présente à l'esprit, c'est-à-dire sans les États-Unis. Il faut faire l'expérience mentale des États-Unis neutralisés et de l'Europe étant seule. Alors, évidemment, si les États-Unis sont avec nous, si nous avons une politique de style Biden, la dissuasion est très puissante. Il y a la dissuasion américaine, les deux armements nucléaires français et anglais, et il faut simplement, à l'Europe, augmenter ses forces conventionnelles. Et à ce moment-là, compte tenu de la dimension et de la puissance de l'Europe et des États-Unis, la Russie n'est pas grand-chose. En revanche, s'il y a un retrait américain, il y a un vrai problème pour l'Europe, parce que l'Europe sans les États-Unis, malgré la puissance nucléaire française et anglaise, ne dissuade pas la Russie. Donc il faut commencer à poser le problème, et Macron a raison de poser le problème, et il a raison d'utiliser ici le mot « souveraineté européenne », parce que l'Europe avec les États-Unis dissuade, l'Europe sans les États-Unis ne dissuade pas. Et donc, il pose le problème et il demande à tout le monde d'y réfléchir. Non seulement il demande à l'Allemagne, à tout le monde d'y réfléchir, et comme le dit Michel Duclos, il n'impose aucune solution, il demande la prise de conscience et le réveil. Et en même temps, je trouve que les dirigeants politiques français devraient se mettre au même niveau que Macron. C'est-à-dire que le problème se pose pour eux comme il se pose pour Macron, parce qu'il se pose tel quel aujourd'hui, la réalité est telle, l'Europe est menacée.
Et ce qui est frappant d'ailleurs dans les réactions politiques en France, c'est qu'aussitôt on a sorti l'effigie du général de Gaulle en disant « Oh là là, mais évoquer que la dissuasion française puisse être mise au service des autres Européens, c'est trahir la doctrine du général de Gaulle, c'est trahir la souveraineté nationale. » Et ça, c'est pas seulement le Rassemblement national, ce sont aussi beaucoup d'autres formations. Est-ce que cette mythification d'un legs gaulliste dans ce domaine vous paraît pertinente, Michel Duclos ?
Alors, c'est... je sais pas si... La statue du général de Gaulle dit encore grand-chose à nos contemporains. Je crois que M. Giscard d'Estaing est quand même beaucoup oublié, au moins par les plus jeunes gens dans notre pays. J'ai été quand même surpris que dans la classe politique, personne ne paraît se souvenir que c'est sous la présidence de Giscard que nous avons conclu, dans le cadre de l'OTAN, au sommet de Lisbonne, une déclaration disant que la dissuasion française contribue à la dissuasion générale en Europe, à la dissuasion de l'Alliance. C'était sous Giscard d'Estaing, qui n'était pas vraiment un traître otanien, si vous voulez.
Ni un homme de gauche, ni un homme éloigné de l'OTAN.
C'est un peu étonnant que c'est disparu de la mémoire nationale. Je pense que l'idée que la force de frappe française contribue, alors c'est le mot contribue qui est important, évidemment, ce n'est pas nous qui assurons la dissuasion en Europe. Bien évidemment, pour l'instant, c'est surtout les États-Unis. Mais c'est quand même une contribution. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dès le départ. Vous savez, je me suis moi-même occupé un peu de ces affaires au début de ma carrière. Il y a des textes du général où il dit, avec sa franchise habituelle, mais évidemment en petit comité, que la principale vertu de la France, de la bombe française, ce serait de servir de détonateur à la dissuasion américaine. Donc lui-même se rendait bien compte du caractère relatif de tout cela. Alors maintenant, pour moi, là, en technicien, si vous voulez, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on peut aller très loin dans cette direction si nous-mêmes, on ne rejoint pas le comité des plans nucléaires de l'OTAN ? On va le voir.
Est-ce que vous pouvez nous dire juste ce qu'est ce comité des plans nucléaires de l'OTAN ?
C'est l'endroit où les Américains, mais aussi les Britanniques, discutent avec les autres membres de l'OTAN, de la manière dont pourrait s'enclencher la dissuasion nucléaire. Et donc, évidemment...
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des armes nucléaires en Allemagne, en Italie notamment, et donc, qui sont des armes nucléaires américaines, mais qui sont affectées à l'OTAN.
Voilà, sous double clé, comme on dit de façon un peu rapide, parce qu'évidemment, à la fin des fins, c'est les Américains qui décident, ou les Britanniques, dans le cas de la bombe... britannique, mais dans un système de consultation, dans un système aussi d'exercice commun, qui donne à nos partenaires européens le sentiment qu'ils auraient une contribution à la décision, que les Américains ne feraient pas n'importe quoi. Et donc, nous, on a essayé de proposer au cours des 10 ou 15 dernières années, tous les présidents de la République récents font de temps en temps un discours, ils proposent à nos partenaires européens des discussions, des consultations, etc., sur... l'ampleur de la arme nucléaire française. Mais nos partenaires européens ne sont pas très chauds parce qu'à chaque fois, ils ont peur que ça adresse un signal aux Américains qui peuvent finalement renoncer à leur propre dissuasion. Et puis en plus, ils se disent mais c'est une façon d'embringuer un truc qui serait à côté de l'OTAN, contre l'OTAN, etc. C'est pas si rassurant que ça. Alors je crois qu'au cours de ces dernières années, nos partenaires sont plus attentifs parce qu'ils voient bien quand même que protection américaine peut être un peu plus branlante, mais malgré tout, tant que ce n'est pas dans le cadre otanien, ils continueront à avoir des réticences à l'égard de nos propositions.
Jean-Claude Casanova.
Oui, mais je crois que l'essentiel est de voir clairement la situation. D'ailleurs, les Polonais réclament la présence de forces nucléaires américaines en Pologne. Donc il faut discuter de tout ça. Il faut discuter de comment accroître la dissuasion européenne dans l'hypothèse où les États-Unis se retireraient. Je sais que c'est une hypothèse qui, pour l'instant, n'a pas de consistance, mais il est bien évident que l'Europe doit réfléchir sur sa position relative à l'intérieur de l'OTAN, dans la mesure où l'OTAN persiste avec les États-Unis, et dans la mesure où l'Europe se trouverait seule. Et ça ne veut pas dire du tout qu'on souhaite le retrait américain, au contraire. Il est moins coûteux et plus facile que l'ensemble occidental, c'est-à-dire l'OTAN, reste ferme et qu'à l'intérieur de l'OTAN, la part européenne augmente. Il y avait dans la critique de Trump quelque chose de justifié quand il disait « les Européens se protègent, obtiennent gratuitement une dissuasion, augmenter vos dépenses militaires ». Et d'une certaine façon, ce que réclamait Trump est aujourd'hui obtenu. L'ensemble des pays européens augmentent leurs dépenses militaires. Mais il ne faut pas se contenter d'augmenter les dépenses, il faut réfléchir à la position stratégique et voir quel est le rôle relatif des uns et des autres si les Américains se maintiennent leur politique et si, par malheur, un jour, les Américains se retiraient.
Voilà, on voit peut-être Michel Duclos, vous vouliez conclure d'une façon ou d'une autre.
Non, je voudrais peut-être dire, moi je, finalement je ne fais pas de politique intérieure, mais c'est quand même vrai que dans cette campagne électorale européenne qui a du mal à décoller, le président de la République a fait un discours qui place les enjeux au vrai niveau, quoi, au bon niveau. Que sans prendre parti pour les uns ou pour les autres, je pense que ce serait bien que la discussion publique s'organise autour des propositions de cette nature-là, qui portent sur l'essentiel, qui est l'avenir de l'Europe.
Ce serait bien, mais je ne suis pas sûr qu'on en prendra le chemin, le débat public français.
L'avenir de l'Europe dans des circonstances où quand même les menaces sont très graves.
Les menaces sont réelles, mais déjà...
Le président a, de ce point de vue-là, parfaitement raison de le dire.
Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur cette double intervention présidentielle sur l'Europe et ce à quoi elle doit ressembler. D'abord, discours de la Sorbonne, mais surtout désormais un long texte très explicite dans The Economist. Et merci donc Michel Duclos de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Michel Duclos qui est conseiller sur les questions stratégiques de l'Institut Montaigne. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous souhaitons un bon week-end. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.